C'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait grandi dans une famille nombreuse, avec des parents sévères et exigeants. Des 12 enfants, il était l'insoumis, le têtu, le différent. « Tu me fais honte !» hurlait son père. « Tâche donc de faire un peu comme les autres qui sont soumis et obéissants. Qu'ai-je donc fait au ciel pour mériter un fils comme toi ?» Quand le jeune garçon se retrouvait à l'école, ce n'était pas plus alléchant. Pointé du doigt par ses compagnons de classe, on le surnommait le fainéant rêveur ou l'exploiteur de chimères. Pour lui, que 2 plus 2 donne 4 ou 5, cela lui était bien égal. De beaucoup, il préférait le chant des oiseaux aux règles de grammaire. Un jour que le directeur de l'école l'avait mis en punition, il déguerpit dès qu'il en eut l'occasion et s'en fut au bord de la rivière, couvant de sinistres intentions. Perdu dans ses tristes pensées, il ne discernait en lui aucune porte de sortie, se demandant s'il pouvait trouver quelque part un espoir. Tout à coup, il entendit des pas derrière lui. « On me rattrape », pensa-t-il, se tournant pour voir qui venait là. À sa grande surprise, il aperçut un jeune enfant qui traînait un gros sac derrière lui. Il se leva prestement et offrit de l'aide. « Il y a si longtemps que je te cherche », dit l'enfant qui s'arrêta sur le champ. Il sortit de son sac une demi-douzaine de lapins de peluche, tous blancs et parfaitement identiques. Il les plaça en rangée de façon absolument symétrique. Le jeune adolescent observait le spectacle et se demandait s'il n'était pas en train d'halluciner quand l'enfant se tourna vers lui et lui dit de façon impérative « Maintenant, choisis !» Le jeune homme haussa les épaules et répondit « Comment veux-tu que je choisisse? Je n'ai pas de choix, ils sont tous pareils. » « C'est la réponse que j'attendais, » reprit l'enfant visiblement satisfait. « Sache que la raison qui me conduit jusqu'à toi, c'est précisément le fait que tu es différent et que tu appelles une solution juste. Je t'ai choisi et je t'enseignerai le chemin de qui tu es en vérité. Te sens-tu prêt à apprendre? »
Apprendre? Je suis un ignorant. Je ne sais rien de toute façon. Tu penses que je peux apprendre?
Après un long silence et le retour des lapins dans leur cage flexible, l'enfant posa de nouveau la question. Veux-tu apprendre?
« Oui, je le veux, » répondit le jeune homme, étonné lui-même de la fermeté de sa répartie.
« Alors, je te pose une question. Quand tu regardes la télévision et que tu vois des hommes se brutaliser, s'entretuer, se mépriser, comment réagis-tu? »
« Je détourne la tête ou je me sauve dans ma chambre. Je déteste la violence. »
« Alors, tu te rends compte combien la méchanceté est intolérable. Aujourd'hui, je t'enseignerai quelle est la guerre la plus insoutenable et la plus destructive. » Elle est inapparente et sournoise. Elle est comme l'acide qui brûle l'espoir et cautérise ta puissance créatrice. Elle se nomme culpabilité. Si tu détournes la tête devant la violence des images de ton téléviseur, c'est pour mieux percevoir combien tu t'auto-mutiles, parce que tu es différent. Tu violes ce qu'il y a de plus sacré en toi et dilapides tous tes talents secrets. Sache que l'ego s'attaque à ceux qu'il juge les plus menaçants. Tu veux apprendre? Alors marche à mes côtés. Apprendre, c'est devenir l'instructeur de celui qui s'instruit sur lui-même. Il développe sans le vouloir des réactions en chaîne. As-tu compris? Et la légende dit que les parents ne recherchèrent pas leur fils, que la direction de l'école ne porta aucune plainte aux autorités, mais que tous les villageois étaient fort émus par la mélodie lumineuse qui, comme un point d'émergence, les conviait depuis ce jour au sommet d'eux-mêmes.
Ne laisse pas l'autre à l'extérieur de toi travestir ta pensée et, de ton côté, n'interprète pas la sienne. Reste au centre, pur et sans jugement. La seule façon pour l'autre, comme pour toi, de devenir un maître, c'est de construire cette maîtrise en toi-même. Dis-moi, comment celui qui ne sait pas lire peut-il enseigner à l'autre comment écrire? Ne boude pas pour autant ta parole, mais tamise-la. Dis ce que tu sais ou crois savoir, et laisse-moi corriger si nécessaire. Ne sois ni rebelle, ni soumise. Le maître véritable est au-dedans de toi et nulle part ailleurs. Tu reconnais sa présence à la paix, à la tranquillité, au silence lumineux qu'il laisse en toi. Tu as compris récemment qu'il n'y avait personne à aduler, personne qui ne peut, du bout de son pendule, t'informer de la puissance de ton ego. Il faut la mort de ce tyran en toi pour indiquer à l'autre sur quel barreau de l'échelle il se trouve. L'enseignement que j'ai rendu disponible ne doit pas devenir prêchi-prêcha ni auréole personnelle. Il est la base d'un long parcours, réalisé pas à pas, dans une conscience toujours plus vive. S'il devient un instrument de comparaison, il te détourne de l'objectif premier. Si tu l'utilises pour prouver à l'autre qu'il est dans l'erreur et que c'est toi qui as compris, tu t'enlises au lieu de te libérer. Quand tu as compris le sens caché de ma parole, c'est une étape importante de franchie, mais il te reste à le devenir. Alors, tu enseigneras dans le silence de notre union.
C'est l'histoire de l'homme qui, sous le couvert de fausses promesses, s'était fait élire à la mairie de son peuple. Il exigeait de chacun de ses sujets qu'ils lui remettent 80% de leur récolte. Il les assura que sa position d'autorité lui permettait de si nombreux contacts avantageux qu'il serait en mesure d'investir le profit de leur récolte et d'obtenir un rendement 100 fois multiplié. Il dressa la liste de tous ses sujets et chaque automne, après la livraison des récoltes, il répétait qu'il était question de jours, de semaines tout au plus, pour que des sommes impensables d'argent leur fût livrées. Naïvement au début, en colère par la suite, mais soumis par la crainte, chacun obéissait. Pourtant, des rumeurs de vengeance circulaient dans le peuple. Seul un vieil homme, insoumis et prudent, entassait ses récoltes dans de vastes greniers. Mais voici que la sécheresse d'un été brûlant calcina les récoltes et dessécha les cours d'eau. Le peuple se pressa devant la demeure du chef avec des pierres et des bâtons. Rien à faire. Ce dernier était parti en croisière, en oubliant son peuple. Le vieil homme se rendit au rassemblement. S'adressant au peuple, il avoua son insoumission et ajouta que ses greniers débordaient de réserves qu'il consentait à partager de façon équitable. Il ajouta « En tant que frère, si vous le voulez bien, nous apprendrons à devenir gestionnaires de nos propres ressources, cela en toute honnêteté envers nous-mêmes, et sans pour autant refuser de partager de façon impartiale entre nous. » La légende dit que par le truchement des médias, le maître du village apprit ce qui s'était passé et qu'il ne revint jamais plus.
Comprends-tu ce que je viens de te dire? Chacun doit gérer son ascension en labourant sa propre terre et non en dictant à son voisin le type de semence ou d'engrais à utiliser. Je te le dis avec insistance. Enseigner, c'est devenir. C'est ainsi que la semence portera son fruit. Si vous décidez de tisser ensemble un chef-d'œuvre, que l'un fournisse le dévidoir, l'autre le métier et l'autre encore les fils de trame et de chaîne, sans oublier qu'un seul peut assurer le mouvement de va-et-vient de la navette sur le métier. Une œuvre collective en est une où chacun a un rôle spécifique dans l'harmonie des différences. Sois libre et respire. Ne laisse pas l'autre frictionner tes écorchures, mais rends-toi gestionnaire de chacune d'elles. Dans l'orchestre, le pianiste se rend-il responsable des cordes du violoniste? À chacun sa fonction, et l'harmonie sera exquise. Le chef d'orchestre ne proposera jamais que l'un entame du Mozart pendant que l'autre joue du Debussy. C'est toute la différence entre l'enseignant qui livre son savoir théorique du parcours et celui qui devient le chemin. Alors, ne dis à personne où il doit se rendre, mais deviens la virtuose qui éveille par son propre devenir. C'est la clé du passage.
Un jour, il y avait un vieil homme qui avait décidé de se rendre au sommet de la montagne secrète. Une fichue aventure, se disait-il à lui-même, sachant qu'un grand nombre en étaient revenus bredouille et sans atteindre les sommets. Comme il était vieux, qu'il n'éprouvait plus d'intérêt pour la place publique, il se dit qu'il n'avait rien à perdre. Avec de bons souliers, sa canne et son baluchon bien remplis, il entreprit le parcours. En approchant des hauteurs, l'air se faisait plus rare, la respiration plus difficile. Il dut ralentir sa course. Il entendit derrière lui les pas d'un coureur qui semblait voler vers les sommets. Sans même qu'il n'ait pu donner son accord, le plus jeune le prit par le bras, lui retirant sa canne et le soulevant presque de terre. Inconfortable, le vieil homme n'eut pas le temps d'une seule remarque que le plus jeune mit un pied maladroit sur une pierre recouverte de mousse glissante et à vive allure dévala la montagne. Le vieil homme ramassa sa canne et poursuivit son ascension. La légende dit que sa lumière, visible jusque dans la plaine, devint pour chacun un appel au sommet.
Si l'ascension peut devenir un projet collectif, chacun est responsable de ses pas, à lui seul. Je te le réaffirme, à chacun sa fonction. L'homme qui avance sur le chemin et qui cherche à narguer le serpent qui se dresse de façon autoritaire devant lui, ignore tout de la fragilité de sa vie. Si, au contraire, il comprend le signal donné et que malgré la souffrance, il évite le piège en rebroussant chemin, il a de fortes chances d'éviter l'indolence. Te souviens-tu des moments où je suis venu près de toi pour t'instruire et assouplir ta nuque raide? Je t'ai promis qu'en retour, je te donnerai ma paix. C'est au milieu de tes larmes et le cœur brisé que tu m'as remis tes clés. Tu croyais tout perdre et tu as évité le pire en consentant à mon amour, en apparence plus austère, et que je te proposais dans le secret. J'ai dû en mettre du temps avant de déposer mon alliance au creux de ta main. Tu te souviens, entre tes larmes, tu m'as dit « Je te donne tout, en retour de tout, même si je ne comprends pas. » Tu ne connaissais pas le risque pris par cette promesse d'apparente solitude. Il te restait encore bien des obstacles à franchir pour que le passage soit créé. Ta force présente est issue de la traversée courageuse de tant d'épreuves. Désormais, tu sais que tu dois être le seul maître en ta maison et que cela s'approche de l'étape finale, c'est-à-dire la dissolution du rêve. Tu deviens le maître que je suis en toi. Un abandon observateur et vigilant à l'appel de mon amour fracassera toutes les fausses utopies qui font ramper, se disperser, nourrir des chimères et oublier le rivage proposé avec comme rançon d'inutiles souffrances. Au cas contraire, tu pourras vivre dans ce monde sans que ta paix ne soit troublée. Reviens sans cesse au silence. Il est si libérateur que tu ne pourras plus t'en passer, car il participe vivement à l'accélération de ton discernement. Tu te souviens du vieil homme que l'on croyait atteint de la maladie d'Alzheimer parce qu'il parlait peu et qu'il riait constamment? Que l'on te pense sénile, qu'importe. Ton chant finira nécessairement par briser des barrières et par t'enivrer du vin sacré de ma béatitude et de mon amour. Pour le moment, récupère et assimile. Il te faut reconnaître tous tes frères comme Christ, dans la pureté et le détachement, au-delà des images infernales proposées par l'ego. C'est une étape importante pour contacter la pure vérité de qui tu es. Tu me poses la question à toute réponse. Dieu existe-t-il et, si oui, qui est-il? Et je te dis, oui, il existe, mais oublie tout ce que tu en connais. Toutes les images qu'on t'en a données sont fausses et celles que je pourrais t'apporter te paraîtront inconsistantes. Il en est ainsi parce qu'il est l'indéfinissable et l'inaccessible, concept impénétrable et réduit à l'essentiel pour le discernement limité de la conscience humaine. Je vais tenter de t'expliquer en commentant l'existence de son opposé dans ton monde de rêve. Le piège monumental, c'est que l'ego est également doué d'une apparente et indéfinissable intelligence. Une indéniable compréhension te révélera, avec l'avancée du parcours, la différence absolue entre la force égotiste et la force divine. L'ego, c'est la haine du diviseur dans l'espace-temps. Dieu, c'est l'indivisible amour hors du temps et de l'espace, un amour si vaste et caché derrière la brume de la création que seul l'Esprit divin peut, dans ton monde, t'en révéler une infime intuition. Ce monde auquel je fais toujours allusion et que j'appelle ton monde, c'est le terrain artificiel où tu as choisi de venir expérimenter le rêve, lieu où tout se scinde, se fractionne, se fragmente, se divise. C'est le théâtre de la division par excellence. Deux parents, un ou plusieurs enfants pour grossir la cellule familiale. En est-il autrement des algues, des insectes, des poissons, des animaux, des arbres, des cellules, des virus, des maladies, des constructions et des habitats humains, des planètes, des étoiles, des univers et jusqu'à la multiplication moléculaire. Toute cette création fut faussement imputée à Dieu, alors que c'est l'égocentricité qui est à son origine et à laquelle tu as consenti, même si tu n'en as plus mémoire. Pourtant, sache-le bien, c'est de l'expansion de la création que naîtra sa destruction dans une sorte d'énergie noire située dans l'espace et le temps, car l'ego ne sait rien d'autre que de détruire. Comprends-tu mieux pourquoi je te demande de lui retirer ton consentement ? Dieu, lui, est hors du temps et de l'espace et totalement ignorant du rêve. Donc, il est hors de toute création extérieure à lui-même. Ce n'est qu'à cause de la présence de l'Esprit divin que tu as gardé un lien indéfectible avec lui. Dis-moi, comment veux-tu que j'aborde un aussi vaste mystère inaccessible à la minuscule intelligence humaine ? Je t'en livre quelques bribes, mais viendra le temps où tu saisiras mieux. L'amour est un, sans division possible, sans interruption et sans extérieur à lui. Il est sans définition autre que l'amour, la connaissance, la paix, la joie, la vérité et la puissance créatrice. Quand tu reconnaîtras cet amour au goût d'unité, tu auras frôlé l'appel du retour. Tu ne chercheras plus alors à définir, mais à devenir. En attendant, réalise chaque jour un peu plus que ton monde est un monde de rêves et de divisions, et que l'océan de l'infinie connaissance ne peut être contenu dans les particules de ton monde de rêves. Je suis avec toi pour te délivrer du rêve. Comprends-tu un peu mieux l'intensité de mon insistance ? Donne-moi toutes tes inquiétudes. Elles ne font que te déchirer entre le passé et le futur. De toute façon, elles ne règlent rien. Elles donnent raison à l'ennemi qui se moque aisément. Que fait l'enfant inquiet autre que de se blottir dans les bras de son parent ? Si l'indispensable épreuve te laboure le cœur, n'attaque pas celui qui tient l'épée. Souviens-toi que moi seul, avec ton consentement, peux dissoudre la blessure. Si tu te bats contre l'épreuve, elle te broie. Si, par contre, tu empruntes le chemin jusqu'à moi, tu assures ta guérison. C'est ton esprit faux qui projette sur l'écran de ta vie des souffrances souvent issues de mémoires anciennes. Tu peux maudire ta projection et la main qui semble tenir l'épée. Tu peux me faire confiance et retrouver ton pas de danse. Tout se joue entre résistance et abandon. Le second choix te libère de tes faux pouvoirs et de tes injustifiables culpabilités. Alors, ton cri de désespoir se change en hymne à la paix. L'ennemi te guette. Il écrit à l'encre de ton sang sur ses tableaux de guerre, te gardant prisonnière d'invisibles champs de bataille. Il te fait douter de ma puissance en te convainquant que seule ta force individuelle, ton pouvoir sur tes frères, ta richesse de faux papiers, ta noble réputation et tes rubans de mensonges à toi-même te feront monter sur son trône. Quand tu y seras, au son des applaudissements, l'adversaire te ligotera, t'imposera un bâillon afin que tu taises la vérité. Sois vigilante et méfie-toi de ces masques adorables. Avant même ta naissance, tu es ma fille dans l'amour. Cette vérité indéniable n'implique en rien la négation de ce que tu vois en ton monde. la guerre, la manipulation, la haine, la maladie et tant d'autres aberrations en font partie. Ne crois pas que tes frères sont tous beaux et gentils. N'affirme pas non plus qu'ils soient tous idiots, sauf toi. De préférence, apprends à distinguer entre le mensonge et la vérité. Si, à l'homme qui vient de se faire amputer une jambe, le médecin assure que le lendemain il peut courir le marathon, tu discerneras certes où se logent les fausses représentations. Néanmoins, ne juge pas, discerne, vois les choses telles qu'elles sont, mais ne condamne jamais. Si tu es troublé, tourne le miroir en ta direction. Toutefois, ne dis pas que tu es le dictateur parce que tu aperçois le dictateur. Ne dis pas que tu es une sainte femme parce que tu vois une sainte femme. Observe pour savoir si tu es dérangé ou neutre, et choisis entre le faussaire et le Christ en gestation. Ce passage obligé suppose que la puissance de ton discernement se développe à un autre niveau, plus secret en apparence, tellement plus vaste et rassurant au pays de ma compréhension. Réalise également que dans le secret de ton ignorance, tu as peur de notre alliance qui supprime le petit « je ». Tu préfères des centaines de petits « je » consécutifs à un seul grand « soi » qui déchire l'écran de tes rêves et t'ouvre la porte au parvis de la lumière. Tu te cramponnes inconsciemment au mur suintant de ta caverne, préférant chérir tes mémoires de peur et de culpabilité, d'attaque et de négation, en faveur des mini-applaudissements de l'ego torsionnaire. Pour cela, affirme et réaffirme ton choix entre le mensonge et la vérité. Ainsi, dans ton monde, tout te servira d'instrument de libération au déplaisir de l'ego. Donne-moi ton rêve. Je bannirai à tout jamais l'obscurité de ta demeure. Je te le redis avec insistance, pas de jugement, pas de négation. Si tu es bien au centre, maintiens une seule prise de position, celle au service de la vérité.
Il était une fois un homme d'âge moyen. Il habitait, au flanc d'une colline, une hutte étroite munie du strict essentiel. Un matin, au lever du soleil, il crut entendre le son d'un instrument de musique. Il sortit en hâte, fit le tour de son patelin, mais ne trouva rien. Il se questionna quelques moments sur sa santé d'esprit, mais oublia rapidement cette bizarrerie et se mit au travail. Traire et nourrir sa chèvre, quérir de l'eau pour elle et lui, laver son corps et sa tunique, cuire son pain et sarcler son jardin. Sans trop savoir pourquoi, la mélodie du matin lui revenait sans cesse en mémoire. On eût dit une porte entr'ouverte sur un questionnement peu familier. D'où est-ce que je viens, moi? Comment se fait-il que j'habite cette colline, dans ce pays, sans famille et sans bien? Pour la première fois depuis l'étrange maladie qui lui avait ravi ses forces, il se questionnait sur sa raison d'être. Ce soir-là, il mit du temps à rattraper le sommeil. Comment distinguer entre l'inquiétude et l'espoir? Il finit par dormir et vit dans ses rêves un enfant lumineux qui jouait du flûtio. Surprise! À son réveil, l'enfant attendait dans l'embrasure de sa porte. L'homme, abasourdi, se leva prestement et demanda des explications. « Il y a bien longtemps, répondit l'enfant, tu es encore un jeune garçon. » « Sur mon cheval blanc, je t'ai rencontré, t'ai remis une clé en or et t'ai demandé si tu acceptais de la cacher précieusement pour moi. Te souviens-tu? » « Certes, je me souviens de l'événement, mais de ton visage et de ta forme, pas du tout. » « La forme importe peu. J'adopte celle qui convient et te permet ainsi de te détacher des apparences si trompeuses et multiples. Cette clé, tu l'enterreras au bout de la ferme de tes parents, entre les deux lilas. » Et tu déposas à l'endroit même une pierre blanche sur laquelle tu écrivis « À toi, mon chevalier lumineux ». Quand tu es retourné chez tes parents, la maison était en flammes et tu ne les as jamais revus. Des étrangers t'ont pris en charge, mais tu as fui. Depuis, tu erres de village en village jusqu'à ce qu'on te chasse à nouveau. Quand l'enfant sortit la clé et la pierre blanche, l'homme éclata en sanglots. « C'est le grand chevalier lumineux qui me prie de te la remettre.
et si tu consens te défaire de ta hutte et de ta chèvre, alors tu découvriras ta demeure définitive. Tu as tout oublié de ton passé, comme on oublie le sillon laissé par le navire sur la vague qu'il fend. C'est parce que tu as oublié la souffrance que maintenant tu te souviendras, comme s'il n'y avait jamais eu d'hier. Secoué, l'homme ne savait plus où donner de la tête. Devait-il vraiment oublier sa chèvre qu'il avait toujours nourrie sans se plaindre? « Je n'ai rien, se disait-il, et on me demande tout. » Il mit du temps, beaucoup de temps, puis il se souvint soudainement de la lumière de son chevalier. Il détacha sa chèvre, lui fit des caresses nombreuses, la promesse d'un été fabuleux, d'abondants pâturages. L'eau de la source, il la trouverait de l'autre côté de la colline. « Je nous rends la liberté, » marmonna-t-il entre deux sanglots. Puis il se retourna et fit signe à l'enfant de le guider. En cours de route, il lui arrivait de ralentir le pas. Une petite voix tordue lui murmurait « Méfie-toi, tu vas trop loin. Tout à coup que ce serait un piège. Et ta pauvre hutte déserte, et ta misérable chèvre qui gémit et t'appelle. Et tu te crois bon en plus, pauvre misérable. » Malgré ce dialogue dément qui cherchait à le diviser, notre homme suivait l'enfant comme on suit son ombre quand on est poussé dans le dos par le soleil. Après un long parcours, le château apparut et devant lui, le chevalier blanc. Il fit signe à notre apprenti d'approcher, il ouvrit ses grands bras et enserra le nouveau venu d'une amicale tendresse. Ensuite, souriant, il pointa du doigt derrière l'homme. Se retournant, celui-ci vit entrer sa petite chèvre têtue. « Tu vois, ici le sacrifice n'est pas permis, et ta petite bique nous rendra sûrement service, » affirma le maître d'œuvre.
Et toi maintenant, cherches-tu à comprendre quel est mon objectif en te racontant cette histoire? En échange de la clé qui t'ouvre la porte royale, j'ai semblé t'offrir l'épreuve et la solitude que tu avais appelée toi-même. Par la force de mon amour, j'ai dû les utiliser pour ciseler la matière brute de ton esprit rebelle. Ainsi, le verrier souffle dans le feu la matière vitreuse et fragile. Il modèle de la sorte sa forme particulière et transparente. Sache aussi que malgré tes doutes et tes résistances, ton seul consentement me suffit. Quand tu choisis la souffrance, tu t'attaches à tes guenilles. La petite voix maligne et sournoise qui cherche à te soustraire à la liberté définitive, elle te torture de faux arguments ou de sottes promesses. Elle craint ta lumière. Tes parents, disparus, ta demeure qui brûle, tes amis qui t'évitent, le corps trop lourd qui ralentit ton pas, les faux maîtres effrayés par ta force, tout cela, je l'ai utilisé pour te rendre conscient de l'inutilité de la souffrance. Tu es de lumière et de joie, de paix et de vérité. C'est ce que je persévère à te faire comprendre. Nous avons échangé clé pour clé. La tienne ouvrant la demeure du monde de torture, de mensonges et d'angoisse. La mienne permettant l'entrée au monde de la paix et de la joie, là où l'amour libre est ton pain quotidien. Une clé est un consentement à l'ouverture, une promesse de liberté et de transformation. Je t'accompagne. La petite chèvre aussi. Tu comprendras plus tard.
Un jour qu'il désherbait ses cultures, un brave paysan se rendit compte qu'à l'extrémité de son champ, une masse de nuages sombres s'accumulait rapidement. Une épaisse ligne noire, boursouflée et menaçante, roulait en sa direction. Il ramassa rapidement sa bêche et son râteau et d'un pas rapide prit le chemin de la maison. « Tu as peur, lâche froussard !» lui cria son voisin. Mais notre homme ne se laissa ni distraire ni intimider par cette remarque désobligeante. Au contraire, il accélérait le pas. La seule odeur du vent et les roulements sourds au-dessus de sa tête annonçaient une menace qu'il reconnaissait bien. Entrant chez lui, il se hâta de fermer toutes les fenêtres laissées ouvertes et prit le temps de rassurer son chien. L'orage éclata au milieu d'un fracas de tonnerre. Le paysan fut alors témoin d'une décharge électrique directe entre le ciel et le sol, foudroyant son voisin. Terrassé lui-même, il faisait les 100 pas dans sa tête. « mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas tenté de le convaincre, de l'informer de l'évidence du danger ou de l'entraîner par la force ? Oh mon Dieu, quelle erreur de ma part, toute ma vie ne sera désormais qu'un reproche. » Alors qu'il se lamentait sur son sort, il vit venir à vive allure policiers, pompiers et journalistes. L'un d'entre eux frappa à sa porte pour savoir s'il avait véritablement été témoin, ainsi que circulait déjà la nouvelle. Aux questions qui lui furent posées, l'homme ne répondit que par des sanglots. Avec un œil qui parle et une sagesse évidente, son interlocuteur lui dit « Soyez sans remords, cher ami. Chacun choisit son jour. Il n'y a jamais ni erreur ni accident. » Ce ne fut que beaucoup plus tard que notre paysan comprit la leçon.
En fait, trois leçons en une. Je précise pour toi. D'abord, distinguer entre défi et prudence. Ensuite, voir plus loin que le choc du moment. Et finalement, fuir lucidement les attaques de la culpabilité. Reprenons pour que tu puisses adopter et faire tiennes les corrections qui te sont proposées aujourd'hui. Premièrement, le défi ou la prudence. Te lancer un défi peut être une proposition acceptable. Par exemple, si tu t'offres à toi-même l'occasion de dépasser tes limites, d'aller plus loin dans la montée vers l'être mature que tu deviens. Cette attitude présuppose une lucidité réelle et souvent rare. Une autre facette du défi invite à l'affrontement, à la provocation, à la mise en doute. Si elle s'adresse à l'autre, c'est en vue d'un pouvoir masqué. Si elle s'adresse à toi-même, c'est pour un autre motif, celui de te haïr. Seule une prudence éclairée et réfléchie te permet de prévenir les erreurs ou les dangers possibles. La prudence ne fréquente ni la peur ni la haine. Elle donne la main à une aspiration qui t'interpelle depuis si longtemps. Deuxièmement, voir plus loin que le choc du moment. Un choc est également un défi. Quoique strictement opposé à l'affrontement avec l'autre, il te confronte brutalement sans avis et sur le champ te met face à un choix. Ou tu cèdes à l'ego, ou tu cèdes à l'esprit divin. C'est en état de crise et prise au dépourvu que tu peux constater où tu investis ton trésor. Pour n'être en rien dérangé, cela suppose que tu aies acquis une maîtrise établie. Finalement, fuir les attaques de la culpabilité. La culpabilité est une angoisse accompagnée de honte. Elle est également une provocation. Attaque, cette fois, proposée par l'ego. Elle est pire que la foudre, car c'est l'esprit divin qu'elle vise à épuiser ou à réduire à néant. Si tu regardes attentivement et fais la synthèse de l'enseignement d'aujourd'hui, tu comprendras que tous les événements qui te semblent parfois surgir de nulle part sont des lieux sacrés de mise à l'épreuve pour comprendre le parcours qu'ensemble nous avons tracé lors du consensus établi entre nous. Si tu pouvais uniquement soupçonner à quel point tu es lumière, au-delà de toute forme et dans une indescriptible unité, tes larmes et tes cris s'évanouiraient pour ne plus jamais revenir. Après l'expérience, le terrain est plus souple. Je te propose un pas de plus. Quand, à toi seul, tu as apparemment décidé que, séparément et loin de ma présence, tu deviendrais le scénariste, le metteur en scène, le monteur et chacun des personnages de ce film que tu nommes « la création », alors tu as dû inventer ce que tu appelles la roue karmique. Si tu acceptes, je t'enseignerai l'envers de ce mensonge. Cette roue que tu vois constituée de banquettes tournantes, où tu es tantôt le roi, tantôt l'esclave, un jour le pape, demain le cantonnier, soit le père ou l'enfant, et vas-y de milliards et de milliards d'images et de rôles pour ton film. Cette roue, compare-la à un vase antique de taille gigantesque, placé au sommet d'une tour très élevée. Puis, regarde cette urne tombée sur une masse de béton armée et précontraint. Voilà se briser en milliers et milliers de pièces. Crois-tu que le passant, qui en recueillera une fine particule au creux de sa main, pourra soupçonner la démesure de l'urne ? Alors, comprends. il n'y a qu'une seule urne. Le langage symbolique que je te tiens n'a qu'un seul but, te toucher dans le cœur, là où réside la véritable ouverture intelligente du parcours inversé. Ton éveil au sujet de cette urne brisée, de cette roue renversée de son ordre habituel, peut t'aider à comprendre que la séparation n'est que pure ignorance d'une fausse fracture. Alors, il n'y a plus de je, de tu, il n'y a plus l'autre et toi, il n'y a plus l'autre comme ton miroir, il n'y a qu'une seule intelligence, une et immuable. Au jeu de nos amours, laisse-moi cueillir en nous, une à une, les pièces brisées de cette urne de rêve. Plus jamais tu ne verras ton frère comme avant, séparé, différent, plus riche ou plus pauvre, plus sage ou plus niais, ouvrier de première ou de dernière heure. Tu ne verras plus rien d'autre que le Christ en gestation. Ta joie sera sans nom, sans forme, sans temps, sans espace, sans urgence, sans question. La joie, tu la seras devenue. À nouveau, je t'invite à rester au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire au-dessus de la part de toi qui se brouille, se perd, s'éloigne et se retrouve coincé par les propos bruyants de l'ego. Il s'inquiète de ton état de paix et n'apprécie guère te voir céder à la joie et à la quiétude silencieuse qui gagne du terrain et enveloppe tes jours d'un regard toujours neuf. En moi, tu deviens inattaquable, hors de son emprise et de ses faux baratins. Il est tellement truqué, il peut changer d'habit 2000 fois chaque jour selon ta vigilance. En même temps, si tu l'observes en mon regard, il tremble d'impuissance. Est-ce que tu te rappelles ce rêve nocturne ?
Il y avait dans un champ des hommes et des femmes alignés, enchaînés aux pieds et les mains attachées derrière le dos. À genoux, ils labouraient la terre avec leurs dents. Le bourreau derrière eux les frappait sans relâche jusqu'à ce qu'ils entendent à distance le son d'un flutio. Le tortionnaire, dépourvu, se mit à trembler, échappa son fouet, ne sachant ni où, ni comment il pourrait fuir une telle harmonie. Il s'enlisait dans le sol comme en des sables mouvants. Pendant ce temps, l'enfant retirait joues et chaînes de ses esclaves, soumis au labour ténébreux de leur maître. « La liberté est vôtre, dit-il. Que veux-tu qu'on en fasse de cette liberté? C'est rassurant la souffrance et on s'y reconnaît. » À ces propos, une femme ajouta. « Et toi, petit, dis-moi comment je nourrirai mes enfants sans travail? » La clameur tapageuse prenait de l'ampleur. L'enfant ne dit rien, il reprit son flutio et regagna la route. Au bout d'un moment, il entendit des pas derrière lui. Un jeune homme interpella le devancier. « Dis-nous au moins où tu vas. » Sans se retourner, l'enfant dit « Je vais à la mer. Tout au long de ses rives, il y a de vastes terres gratuites et disponibles. Viens qui veut. » Le jeune homme ému entonna le chant de liberté. « Vers toi, terre promise, vers toi. »
Te rappelant ce rêve, je te vois déjà danser dans ton désir de liberté. Celui qui chérit sa souffrance, moyennant quelques avantages sociaux, ne sait pas encore qu'il peut devenir maître de sa destinée. Prêt à céder son pouvoir aux milliers de contre-vérités proposées par l'ego, qui cherche sans cesse à le convaincre de son impuissance, il se complaît dans le miroir de sa faiblesse. Si tu adhères à ses contraintes, il te fustige. Si tu refuses son emprise, il se maquille. Si tu le chasses en mon nom, il se fond dans les sables mouvants. Je sais que tu as compris que le choix t'appartient et que cela résulte de cette décision irrévocable que nous avons prise ensemble. L'ego est impuissant devant ta ferme décision d'avancer vers la terre promise. Il ne sait rien d'autre que le chemin de l'esclavage. Dès que tu avances sur mes terres, il se fond dans l'ombre de son inexistence. Chaque jour, réfugie-toi en ma tendresse jusqu'à la devenir. Elle n'agresse pas, ne crie jamais et ne reconnaît que le retentissement de l'unité. Deviens le son et tous ces autres qui sont toi, porteurs de chaînes et de souffrances, invite-les de ton silence et chante l'hymne à la terre promise jamais quittée, sauf dans le rêve.